Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ce que je souhaite, c'est donner de la visibilité sur les prochaines semaines par les décisions de demain, sans céder à quelque panique que ce soit.
Emmanuel Macron prépare les esprits, tour de vis en perspective demain à l'issue du Conseil de défense. La France dans 15 jours, ce sera l'Espagne, disait hier le président du Conseil scientifique. Quelles mesures ont été prises localement? Nous irons à Barcelone. Le Brexit, round 8365, l'Europe menace le Royaume-Uni de recours en justice. Londres persiste dans son bras de fer comme si de rien n'était. Des milliers de migrants livrés à eux-mêmes après l'incendie de leur camp, reportage de notre envoyé spécial à Lesbos. Dans ce journal également, Christophe Castaner, nouveau président du groupe En Marche à l'Assemblée. La victoire en solitaire du Suisse Marc Hirschi sur la 12e étape du Tour de France. Primoz Roglic conserve le maillot jaune. Et puis le foot, Lens affronte ce soir un PSG méconnaissable et pour l'instant inoffensif, Julien Froment.
Exactement, c'est la reprise de la seconde période. 0-0 pour le moment entre Lens et le Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Julien Froment, que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans ce journal de la nuit. Grisaille le matin, mais soleil l'après-midi, nous dira Anissa Haddadi dans sa météo. La Bourse de Paris a clôturé en baisse, moins 0,38% à 5023 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamaud de boursier.com. L'interview écho, 22h20, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Thierry Delessalle, porte-parole des notaires d'Île-de-France, où le marché de l'immobilier résiste très bien à la crise de Covid. Et puis, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après les protestations, les menaces, l'Europe montre les muscles face aux provocations du Royaume-Uni. Isabelle Horry, la Commission européenne est très claire. Si Londres ne retire pas son projet de loi remettant en cause certains engagements sur le Brexit, elle saisira la justice.
Oui, c'est carrément un ultimatum. Alors vous savez, il y avait aujourd'hui à Londres une réunion en urgence du comité qui supervise l'accord de divorce. Une réunion à la demande de Bruxelles. C'est à l'issue de cette réunion entre Britanniques et Européens que la Commission a publié un communiqué absolument cinglant. Elle donne jusqu'à la fin du mois au gouvernement de Boris Johnson pour retirer son projet de loi controversé sur l'Irlande du Nord. Il viole des aspects de l'accord de divorce signé l'an dernier. Cet accord est aujourd'hui un traité international. En théorie, pas une virgule ne peut en être changée. C'est une violation extrêmement sérieuse, écrit donc Bruxelles. La confiance a été gravement abîmée. Au gouvernement britannique de la rétablir, peut-on aussi lire. La Commission prévient qu'elle n'hésitera pas à lancer un recours juridique. Il peut déboucher sur des amendes ou des mesures de rétorsion. Ce soir, Londres rejette cet ultimatum. Le gouvernement britannique a prévu de faire voter la loi lundi prochain.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Bruxelles où, comme chez nous, les hospitalisations dues au Covid repartent à la hausse. Résultat, les autorités ont mis en place la bulle sociale. Chaque foyer belge a le droit de côtoyer un maximum de 5 personnes sans masque ni distanciation sociale. Alors faut-il s'attendre à ce genre de mesures en France? Réponse demain à l'issue du Conseil de défense. Emmanuel Macron a promis aujourd'hui des décisions claires et transparentes.
Ce que je souhaite, c'est donner de la visibilité sur les prochaines semaines par les décisions de demain. Nous continuerons de prendre les décisions qui conviennent en appelant aussi chacun de nos concitoyens à leur part de responsabilité, parce que nous sommes tous et toutes les dépositaires de cette lutte contre le virus. Nous aurons des décisions à prendre, sans céder à quelque panique que ce soit.
Le chef de l'État au micro européen de Jean-Rémy Baudeau. Notez que Sonia Mabrouk recevra demain à 8h15 dans la matinale le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, que l'on entendait hier soir dans ce journal nous dire qu'au regard du nombre de contaminations, la France a 15 jours de retard sur l'Espagne, le pays européen le plus touché actuellement. Alors comment nos voisins espagnols gèrent-ils cette situation que l'on risque donc de connaître, nous, d'ici 2 semaines? Henri de Laguérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Quelles sont les mesures qui ont été prises?
Alors, eh bien, au début de l'été, l'Espagne est le premier pays d'Europe à avoir rendu obligatoire le masque partout, tout le temps, dans le métro comme sur son vélo, et ce, dès l'âge de 6 ans. Ensuite, à Madrid, en Catalogne et aux Baléares, les réunions de plus de 10 personnes sont interdites. Dans les restaurants, les règles sont nombreuses. Écoutez Soraya, serveuse au Centre-Tête à Barcelone.
Il faut désinfecter la table après chaque client, porter le masque, vérifier les distances de sécurité. Et puis avant, on fermait à 3 heures les week-ends. Maintenant, c'est 1 heure. Et malgré tout ça, on doit offrir notre plus beau sourire, même si ça ne se voit pas.
Voilà, les discothèques avaient rouvert au début de l'été, elles ont rapidement refermé. Pour lutter contre ce qu'on appelle ici les botellones, ces beuveries qui réunissent des jeunes dans la rue, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite. On a le droit de fumer dans la rue que si l'on respecte 2 mètres de distance. Alors, le nombre de contagions s'est envolé en Espagne, c'est vrai, mais il y a 25 fois moins de décès qu'au printemps dernier. Ce n'est pas la même situation, confirme le chef des urgences d'un grand hôpital de Barcelone, Pierre Malcher.
Je pense que la situation n'est pas catastrophique, mais si elle ne l'est pas, c'est justement parce qu'il y a des mesures très strictes qui sont prises. Donc je pense qu'il faut vraiment respecter toutes les règles, parce que sinon, ben oui, on va se retrouver dans une situation similaire au mois de mars. Donc je pense qu'il faut être vraiment très, très vigilant.
Enfin, en pratique, le reconfinement localisé et ciblé, les habitants de 7 municipalités espagnoles n'ont plus le droit de sortir de chez eux.
Henri de Laguerie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Les chiffres de l'épidémie en France, près de 9900 nouveaux cas de Covid diagnostiqués ces dernières 24 heures, record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle. Cette flambée pousse de plus en plus d'agglomérations à serrer la vis. À Nantes, le masque deviendra à partir de samedi obligatoire partout. Il ne l'était à présent que dans le centre ville. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca juge encore possible d'avoir un vaccin contre le Covid-19 avant la fin de l'année, et ce, malgré l'arrêt soudain des essais thérapeutiques qu'il menait. L'un des participants au Royaume-Uni a développé une maladie inexpliquée, peut-être un grave effet secondaire.
Europe Soir, le 22-22-30.
En Grèce, l'aide d'urgence s'organise après les incendies du camp de Lesbos. Incendies provoqués, on le rappelle, par des migrants eux-mêmes mécontents de se voir imposer des mesures de quarantaine. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est encore pire puisqu'ils sont des milliers à errer sans abri, comme vous avez pu le constater, Hélène Terzian. Vous êtes à Lesbos pour Europe 1.
Oui, ce sont des milliers de réfugiés afghans, syriens, congolais, dont beaucoup d'enfants qui se retrouvent désormais assis sur le bitume ou parfois à l'ombre d'un olivier, ici le long de la route qui relie le camp ravagé au port de Mytilène. Des demandeurs d'asile contraints de s'amasser dans un périmètre restreint et contrôlé par les forces de l'ordre. Lorsque les flammes ont détruit leur abri de fortune, ils ont tout quitté. Et comme pour Shaniz, une Afghane de 27 ans, sans rien pouvoir sauver.
Au moins au camp de Moria, on avait une tente. Là, on n'a plus rien. La nuit dernière, on a dormi dans la rue, juste là. Et maintenant, voilà, on n'a plus rien à manger, rien à boire, pas d'eau. Et puis, il y a des femmes enceintes, des gens malades. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas. On est tellement inquiets, tellement tristes.
We are so worried, sad.
Des réfugiés désemparés qui ont très peu d'informations sur l'aide qui est progressivement en train de se mettre en place. Ce ferry, par exemple, dépêché par les autorités pour héberger les migrants les plus vulnérables. Peu d'informations aussi sur ces deux navires militaires grecs censés arriver au port de Mytilène, alors que 400 mineurs isolés ont déjà été transférés à Thessalonique, dans le nord du pays.
Et à ce sujet, l'Allemagne et la France annoncent le lancement d'une initiative afin de permettre l'accueil par plusieurs pays européens de ces 400 mineurs isolés. Et merci Hélène Terzian, envoyée spéciale d'Europe 1 sur l'île de Lesbos. La loi des séries à Beyrouth, énorme incendie aujourd'hui dans le port, la même où une terrible explosion meurtrière avait dévasté il y a quelques semaines la capitale libanaise. Les flammes sont parties d'un entrepôt où la Croix-Rouge entreposait de l'aide. Il s'agit peut-être d'un sabotage, selon le président libanais. Cette fois, pas de victimes, mais des habitants forcément sous le choc. Retour en France, en Corse, où s'est tenu ce soir un sommet des pays du sud de l'Union européenne, sommet visant à faire front face aux ambitions de la Turquie en Méditerranée. Dans sa déclaration finale, le Medset se dit favorable à des sanctions de l'UE si Ankara ne rompt pas le dialogue. La Turquie n'est plus un partenaire dans cette région, avait déploré un peu plus tôt Emmanuel Macron. Réponse immédiate d'Ankara. Le président français a encore une fois fait des déclarations arrogantes dans un vieux réflexe colonialiste. L'actualité politique avec Christophe Castaner, élu à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée. L'ex-ministre de l'Intérieur a devancé la députée des Yvelines, Aurore Berger, au second tour d'un scrutin plutôt serré, Claudia Bertram.
Oui, seulement 25 voix d'écart entre Christophe Castaner et Aurore Berger. L'ancien ministre de l'Intérieur est élu avec 55% des voix. Et si sa victoire n'est pas vraiment une surprise, le fait que ce soit si serré l'est davantage. Mais le mot d'ordre ici à Amiens, c'est le rassemblement du groupe. Et c'est le message que le nouveau président a voulu faire passer devant les députés lors de son discours tout à l'heure.
Cet esprit de conquête, je vous le dis, n'est pas perdu. Il n'appartient qu'à nous, de le faire revivre. Cet esprit de conquête, nous arriverons à l'insuffler parce que nous serons forts, parce que nous serons unis.
Alors Claudia, cette victoire qui est loin d'être un plébiscite, ce n'est pas très bon signe pour le camp Macron à 2 ans de la présidentielle.
Eh bien, cela montre que le groupe se cherche toujours. Alors, les députés ne se sont pas émancipés en élisant Christophe Castaner, un proche d'Emmanuel Macron. Mais ce résultat montre qu'il n'est pas en terrain conquis et qu'il va devoir œuvrer pour rassembler le groupe. Un groupe fragilisé qui a perdu sa majorité absolue et qui ne compte plus que 275 députés après une série de départs. La division du groupe de La République En Marche serait une forme de séparatisme, un échec, a mis en garde Christophe Castaner. Mais aujourd'hui, le résultat de son élection, eh bien, c'est le signe qu'Emmanuel Macron doit chouchouter davantage ses troupes pour le porter jusqu'en 2022.
Claudia Bertram, à Amiens, où se tiennent les journées parlementaires de La République En Marche. On a appris aujourd'hui l'ouverture la semaine dernière d'une enquête pour viol et agression sexuelle dans le milieu du patinage artistique. Le parquet de Paris s'appuie sur le rapport de l'inspection générale du ministère des Sports qui lui a été transmis fin août. Le document met en cause une vingtaine d'entraîneurs. Victoire surprise de Vincent Labrune, l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille a été élu aujourd'hui président de la Ligue de football professionnel. Il l'a emporté face à Michel Denisot. Le foot sur le terrain, cette fois, il y en a ce soir au Stade Bollard de l'Hélice où le Racing Club de Lens affronte depuis 54 minutes un PSG privé de 7 joueurs contaminés. Julien Froment, vous suivez cette rencontre de Ligue 1 pour nous. Comment les Parisiens s'en sentent sans leur star ?
Eh bien écoutez, vous l'avez dit, 56e minute de jeu, 0-0 ici à Bollard entre Lens et le Paris Saint-Germain. Et pour le moment, c'est un Paris Saint-Germain dominateur, mais un Paris Saint-Germain pas très inspiré offensivement, pourrait-on dire. On le rappelle, un Paris privé de Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, les quatre fantastiques parisiens, tous positifs au Covid. Du coup, eh bien, Thomas Tuchel a un petit peu bricolé devant, avec notamment la titularisation du jeune Arnaud Calimuendo, seulement 18 ans, et aussi de Kaïs Ruiz, jeune milieu de terrain qui évolue dans le couloir de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et pour le moment, eh bien, ce Paris Saint-Germain s'est créé une seule occasion, alors que là peut-être une opportunité non finalement dégagée par la défense lensoise, une énorme occasion pour Paris. Donc c'était Kaïs Ruiz en première mi-temps, frappe qui est passée juste à côté du poteau de Leca, mais là plus grosse occasion de cette rencontre, et bien pour le moment elle est pour le RC Lens et Ganago, l'ancien joueur de Nice, et bien qui a trouvé le montant de Marcin Bulka. Donc voilà, toujours 0-0 dans cette rencontre après 57 minutes de jeu.
Merci Julien Froment en direct de Lens pour Europe 1. Julien que l'on retrouvera dans quelques minutes juste avant la libre antenne. C'était aujourd'hui la plus longue étape de ce Tour de France 2020. 218 km entre Chauvigny et Saran en Corrèze. Ça fait mal rien que de le dire. Périple qu'a remporté le Suisse Marc Hirschi, un tout jeune coureur qui découvre le Tour de France cette année, Marguerite Lefebvre.
Oui, il a 22 ans tout juste. C'est seulement sa deuxième année chez les pros et le voilà propulsé sur un podium du Tour de France. Impressionnant, Marc Hirschi qui avait déjà terminé deuxième de l'étape à Nice et troisième à La Reims en cette journée d'hommage à Raymond Poulidor. Marc Hirschi visiblement ne voulait pas se contenter des places d'honneur, il a attaqué dans la dernière difficulté de la journée, le Sucomet, cette redoutable bosse classée en deuxième catégorie, et puis pendant 30 km il ne s'est pas retourné, il a résisté à la contre-attaque notamment menée par le français Julien Alaphilippe. Derrière Marc Hirschi, le peloton termine à plus de 2000 minutes, peloton maillot jaune groupé, ce qui veut dire que le classement général ne change pas ce soir. Le Slovène Primoz Roglic est toujours maillot jaune. Voilà pour cette 12e étape en Corrèze, journée d'hommage sur le Tour, puisque les coureurs ont traversé le village de Raymond Poulidor avant d'arriver ici à Saran, dans le fief de Jacques Chirac, disparu en septembre dernier.
Merci Marguerite Lefebvre qui nous fait vivre ce Tour de France tous les jours sur Europe 1 aux côtés d'Axel May. On retourne à Lens où un but vient d'être inscrit, Julien Froment.
Oui, exactement. But pour le RC Lens, signé Ignatius Ganago après une erreur monumentale du gardien parisien Marcin Bulka qui a mal dégagé son ballon tout simplement. Ganago qui en profite et donc 1-0 pour Lens face au PSG après 58 minutes de jeu.
Julien Froment en direct de Lens. On passe à la météo de demain.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa Dadi, il va y avoir des grisailles en début de journée.
Oui, alors c'est vrai que quand on le dit comme ça, Julien, ça paraît pas bien parti. Eh bien, sur le Pays Basque, le Midi-Pyrénées, la Bretagne et la Normandie, c'est vrai que la journée va commencer avec des nuages bas et un ciel assez couvert. Mais, et c'est là que le mai devient intéressant, ces grisailles vont se dissiper à la mi-journée. Dans le sud-est, les Alpes-Maritimes et la Corse, eh bien là, le ciel est gris avec des averses localisées encore demain. Et puis dans l'après-midi, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, le ciel reste encore bien couvert avec encore des averses et parfois même quelques coups de tonnerre. C'est le dernier jour de mauvais temps dans le sud-est. Hein. partout ailleurs. Et c'est là que la bonne nouvelle arrive. Le ciel est bien ensoleillé, un ciel complètement dégagé. Et l'après-midi s'annonce très estival demain. Les températures minimales sont stationnaires avec 8 à 21 degrés de Brest à Perpignan. Nous aurons 15 degrés en début de journée à Paris. Et puis dans l'après-midi, il fait encore très bon avec 20 à 24 degrés en bord de Manche, 25 à 29 degrés sur l'ensemble du pays sous le soleil, avec 26 pour La Rochelle, 27 à Paris et 29 à Bastia. Et puis nous irons au-dessus des 30 degrés avec plus de 31 degrés dans le sud-ouest pour Angoulême, Nîmes et Perpignan. Un pic de chaleur est prévu pour dimanche et lundi. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur Europe 1.
Ah, bien sûr. Merci Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview actu. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Thierry Delesalles, notaire à Paris et porte-parole des notaires d'Île-de-France, où le marché de l'immobilier résiste très bien. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street retombe déjà après une brève tentative de rebond hier.
Oui, ça ne tient pas. Effectivement, la tendance retombe avec les valeurs de technologie en particulier. C'est le grand sujet du moment. La hausse d'hier n'a pas tenu en raison des incertitudes sur la croissance économique américaine en particulier. Il y a donc une baisse assez nette du Dow Jones ce soir, moins 1,45% qui rechute à 27 535 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, perd même 2%, moins 1,99% exactement, 10 919 points. Et donc, ce sont les valeurs de technologie qui redonnent du terrain, comme Netflix, moins 4%, Amazon, moins 2,8%, Microsoft, moins 2,8% aussi, Facebook, moins 2%. Et puis IBM perd 1,4%. Les deux gros dossiers surveillés de très près depuis plusieurs semaines, c'est Apple et Tesla. Apple repère 3,3%, 113,50 $. Tesla, en revanche, résiste en hausse d'1,3%. Le pétrole redescend aussi sur les $40 le Brent. Pas beaucoup de certitudes en ce moment sur les marchés qui sont un petit peu ballottés au gré des nouvelles. On a un euro qui remonte légèrement au-dessus des 1,18. 1,18,15 face au dollar.
La Bourse de Paris a elle aussi terminé en repli.
Oui, ça baisse hein, quand Wall Street chute comme ça. En fin de journée, on a à Paris un retournement de tendance alors que la hausse était plutôt au menu du jour. La Bourse de Paris a reperdu 0,38% finalement, 5023 points en préservant quand même la barre des 5000 points. La Banque Centrale Européenne n'a rien changé à sa politique monétaire et ne semble pas trop s'inquiéter de la fermeté de l'euro qui du coup est remontée donc au-dessus des 1,18 face au dollar. Quelques grosses valeurs sont redescendues. On a Vinci, moins 2,7% avec Eiffage, moins 2,2% Veolia, alors que Suez a refusé unanimement l'offre de rachat de Veolia. Et puis EDF, Renault aussi recule d'1,6% avec Alstom. Alstom qui va remplacer le groupe Accor dans la composition du CAC 40. Ce sera le 21 septembre prochain.
Exception du jour, le groupe Chargeur s'est envolé de plus de 10%.
Grosse exception, effectivement. Plus de 10% de hausse, 10,5% exactement, 17,78 €. Le spécialiste de la protection des surfaces et des personnes, qui est un gros fabricant de masques, flambe en bourse. Chargeur, donc, profite évidemment de la situation en ce moment avec des résultats qui ont été multipliés par deux au premier semestre. La situation sanitaire qui impose le port du masque et donc ça profite à Chargeur qui grimpe de 10,5% ce soir, 17,78 € à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse, moins 0,2% à Francfort, moins 0,3% à Madrid, moins 0,3% aussi à Amsterdam et le CAC 40 en baisse de 0,38%, 5023 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain. 22h20 sur Europe 1. On passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Thierry Delesalles.
Bonsoir Thierry Delesalles.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes notaire et porte-parole des notaires d'Île-de-France. Si on a eu envie d'être en ligne avec vous ce soir, c'est que les notaires d'Île-de-France ont présenté leur bilan des mois qui viennent de s'écouler sur ce marché immobilier. Et peut-être quand même, et y compris pour vous, la grande surprise, c'est que le marché immobilier en Île-de-France résiste bien, voire très bien aux effets du Covid.
Ben oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on est toujours surpris quand on regarde les chiffres, mais ça ne fait que conforter ce qu'on ressent, nous, dans nos études et dans les rendez-vous. C'est cet appétit qui n'a jamais été aussi fort, en réalité, des Français pour la pierre. Donc les Franciliens n'y échappent pas, encore peut-être plus qu'en France, parce qu'ils ont souffert du confinement, dans des appartements souvent exigus, avec des enfants en bas âge. Et là, forcément, tout ce confinement a je ne sais même pas si ça a relancé, parce que l'année 2019 était exceptionnelle en termes de volume. Mmh. Et bien là, on a pratiquement retrouvé le dynamisme de 2019. Fin juillet, on était à 95% du dynamisme de 2019, qui était pourtant une année exceptionnelle.
Donc, c'est ça qui est impressionnant, hein, c'est cette résistance. Pour vous, de ce que j'entends, l'une des raisons, c'est le fait que pendant le confinement, on a potentiellement eu envie de déménager. Mais pour le moment aussi, ça met du temps pour signer un acte d'achat. On est quand même sur des ventes qui étaient engagées avant le confinement pour la grande partie.
Ben, les chiffres qu'on a révélés ce matin, c'est les deux. En réalité, c'est pour ça que c'est très compliqué à comprendre. Avec ces deux mois de confinement qui étaient à cheval sur deux trimestres et le timing d'une vente qui est de 3 mois. Donc, en fonction soit de l'avant-contrat, soit de la vente, si vous parlez des ventes ou si vous parlez des avant-contrats, vous ne parlez pas de la même chose. C'est vrai que ce qu'on a commenté, c'est des ventes du deuxième trimestre, donc jusqu'à fin juin, qui étaient pour la plupart, je dis bien pour la plupart, des ventes qui étaient déjà engagées avant le confinement. Il n'empêche qu'on a sorti aussi les chiffres du T3, où là, c'est des avant-contrats. La plupart, c'est des avant-contrats, des promesses de vente d'après-confinement, où on constate exactement les mêmes phénomènes.
Donc le marché se tient bien, et c'est pour ça que les prix, eux aussi, ne baissent pas, bien au contraire. Et là aussi, c'est quand même impressionnant. Les prix en Île-de-France ont progressé de 5,7% par rapport à un an plus tôt. C'est quand même une progression extrêmement forte.
C'est des progressions qu'on n'avait pas vues depuis 2011.
Oui. Ouais, mais comment vous l'expliquez ?
Par ce goût de la pierre et par le fait qu'on est en zone tendue en Île-de-France et qu'il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Donc le marché n'est pas équilibré. Il a été à un moment donné équilibré sur les appartements en grande couronne, voire les maisons. Mais maintenant, il est particulièrement déséquilibré sur beaucoup de secteurs. Alors à Paris, je ne parle pas de Paris, c'est un marché de pénurie. Mais maintenant, on constate que même les appartements Grande Couronne, qui étaient un marché assez stable, dynamique, mais stable en termes de prix, eh bien on voit des augmentations aujourd'hui qu'on n'avait pas vues depuis 15 ans. Et alors je ne vous parle pas des maisons. Alors les maisons, aujourd'hui, ont rattrapé en termes d'augmentation de prix les appartements. Alors, donc, petite et grande couronne, bien sûr.
Tout ça est extrêmement intéressant. Ce qui est un des points aussi qui sort des chiffres que vous avez publiés ce matin, c'est une des évolutions aussi du Covid. Vous disiez tout à l'heure que certaines personnes en ont eu marre de leur logement et ont donc cherché un autre bien. Et peut-être que parmi ces biens, vous appelez ça la pierre verte. Mais il y a une recherche, en tout cas, de biens plus à la campagne, un petit peu plus loin des grandes métropoles en Île-de-France. Et ça, on s'était beaucoup dit que c'était une tendance, mais vos chiffres viennent la valider, cette tendance.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une tendance. Il y a la pierre verte, mais il y a peut-être aussi la pierre mixte. Et c'est ce qu'on a pu constater dans nos rendez-vous, c'est que les gens qui habitaient en région parisienne, dans le centre, dans l'urbain, ont tendance à se dire « je vais m'acheter un petit bien à la campagne, mais qui ne va pas forcément être mon lieu de vie principal, mais je vais me partager entre les deux ». Donc, on n'est pas dans l'achat d'une résidence secondaire, souvent, quand évidemment professionnellement c'est possible et que les enfants n'empêchent pas un déménagement complet, ça va être du 50-50 ou du un tiers, deux tiers à un endroit et à l'autre. Vous voyez, c'est moins tranché qu'avant.
On sait que l'achat immobilier, d'habitude, est très lié à la conjoncture économique. A priori, on connaît la pire crise de notre histoire. Les mois qui vont venir s'annoncent très compliqués sur le plan de l'emploi et également des faillites d'entreprises. Est-ce que malgré tout, on peut se dire qu'il va y avoir un coup d'arrêt à un moment sur ce marché immobilier?
Ça dépendra de l'ampleur de la crise économique. Très franchement, c'est vrai que s'il y a un marasme économique...
Mais ça, on le sait, ça va arriver.
On le sait, on ne sait pas encore l'ampleur. On ne connaît pas l'ampleur du nombre de licenciements. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore beaucoup d'acquéreurs. Pourquoi ? Parce que le carburant est vraiment pas cher. Les taux d'intérêt ont encore baissé depuis au mois d'août. On a constaté que ça n'a jamais été aussi bas. Donc,
mais justement là-dessus, pourtant, les banques ont annoncé un resserrement du crédit, notamment parce que les autorités financières ont demandé à prêter de façon plus sécurisée. Oui. Pour le moment, là aussi, ça ne se voit pas. Rien ne se voit finalement. C'est ça qui est impressionnant.
Si, ça se voit. Les refus de prêt d'après la Banque de France sont passés de 6,5% à 10,5%. Bon, mais ça reste quand même marginal. Il est vrai que les dossiers les plus fragiles, aujourd'hui, ne passent plus. Alors, comment ça peut passer? Eh bien, on va peut-être revoir pour ces primo-accédants qui empruntaient jusqu'à 110%, on va peut-être revoir ce qu'on voyait il y a quelques années, avant que les banques prêtent 110% du prix, c'est une des aides parentales ou des grands-parents. Qui vont remplacer, du coup, alléger les remboursements d'emprunt pour que les dossiers passent. Ça, c'est, je vous parle des primo-accédants. Mais en réalité, aujourd'hui, le marché, il est fait énormément des secondo-accédants, ce qu'on appelle des gens qui déménagent, qui vendent et qui achètent. Ils veulent déménager à la suite de ce confinement, mais pour plein de raisons. Parce qu'il n'y a pas que la pierre verte, hein, il y a aussi la pierre refuge en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui craignent une crise financière et qui donc mettent toutes leurs économies dans de la pierre. Donc ça, c'est un phénomène assez, une tendance qui se confirme dans nos rendez-vous.
Eh bien, on va suivre tout cela. Un grand merci Thierry Dolsal, notaire à Paris et porte-parole des notaires d'Île-de-France. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et faire un dernier crochet au Stade Bollaert où Lens mène face au Paris Saint-Germain. A tout de suite. Et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Les agriculteurs face au défi de la transition écologique, titre en une Le Figaro. Dans un entretien au journal, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, rejette le dogmatisme écologique et plaide pour une transition, je cite, « pragmatique » qui prenne en compte les complexités de la nature. Nous voilà bien avancés. On termine avec le Dauphiné libéré. 19 millions d'euros tombés du ciel, titre le quotidien Rhône-Alpin. Le club des sports de Courchevel a en effet reçu un don de 19 millions d'euros, donc, de la part du milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Le patron du groupe Ineos, propriétaire par ailleurs de l'OGC Nice, a voulu offrir au club de ski de sa fille de nouveaux locaux, dignes, je cite, d'un club comme celui de Courchevel. Voilà donc en partie ce que vous pourrez lire demain dans vos journaux. Alors,